Salut à tous et bienvenue dans notre émission spéciale 4e mi-temps sur RCV Radio Ciel Bleu. Alors cette émission pour les novices qui nous écoutent, que l'on retrouve régulièrement après chaque bloc de match pour faire un bilan. Là, cette fois-ci, c'est un bilan de la saison et une projection vers la saison prochaine avec des invités que vous attendiez, bien évidemment. Mais avant toute chose, je suis, comme d'habitude, toujours accompagné de Rémi. Salut Rémi.
Salut Seb et salut à tous et bienvenue donc à nos chers invités aujourd'hui qui sont le président Pierre-Olivier Valaise et monsieur Alain Paco. Donc on vous remercie pour votre visite, nous sommes dans les lieux de l'hôtel Ibis et on remercie d'ailleurs l'hôtel Ibis pour son accueil et sa gentillesse pour sa disposition par rapport aux locaux.
Alors cette émission va se présenter en trois parties. La première partie, nous allons faire un bilan 2014-2015 sportif et financier. Ensuite, nous allons faire un rapide tour d'horizon sur l'intersaison avec beaucoup de choses. Et enfin, une projection sur la saison prochaine. Bien évidemment, les objectifs sportifs et financiers. Alors, première partie de ce bilan de cette saison 2014-2015. Rémi, à toi l'honneur.
Donc déjà, on va présenter Monsieur le Président Pierre-Olivier Valaise. Bonjour, comment ça va?
Bonjour à tous, très bien. La saison démarre.
C'est ça, voilà. Donc on va discuter pendant cette petite heure. Bonjour Alain Paco, donc.
Bonjour à tous.
Et bienvenue parmi nous ici à Radio Ciel Bleu. Donc en effet, donc, cette quatrième mi-temps va être composée de plusieurs parties. On va commencer par la première partie, le bilan de la saison 2014-2015 avec un aspect sportif et financier. Ensuite, on passera sur une partie de l'intersaison, où c'est qu'on discutera donc de certaines choses. Une partie recrutement, et enfin pour finir, une partie sur la saison 2015-2016 qui arrive très rapidement, puisque est sorti déjà le calendrier de la saison pour la saison prochaine.
Bilan sportif. Béziers avait visé le top 8, objectif qui n'est pas atteint. Quel est le sentiment du président ou d'Alain Paco, puisqu'il s'occupe du sportif également, mais quel est le sentiment général au sein du club à l'issue de cette saison?
Je dirais trois mots, c'est déception. On ne peut pas le cacher parce qu'on avait visé les 8 premières places, on ne les a pas atteintes, donc il ne faut pas se cacher derrière. Frustration. Parce qu'on a l'impression que c'était pas loin, on n'était pas loin d'être même bien plus haut que la 8e place. Et espoir, parce que si à un moment donné on a réussi à faire une demi-saison près de la 5e place, on doit être capable, en corrigeant les erreurs de cette saison, de faire mieux l'année prochaine.
Alors durant cette saison, est-ce qu'il y a eu un tournant durant cette saison sportif? Du moins par rapport aux résultats de la SEBH cette année. On pense particulièrement au match de Pau, en début de saison, qui a été difficilement accepté par le club par rapport à cette fin de match. Peut-être aussi la défaite à l'USAP, à Aimé Giral, qui a été. On n'est pas passé très très loin de l'exploit. Est-ce qu'il y a autre chose à votre avis, Alain?
Oui, je crois que ça fait partie, ce que vous citez, des absences que nous avons eues, des manques qu'il aurait dû. C'est des matchs qu'on a dû rentrer dans l'escarcelle pour pouvoir faire. Courir pour la qualification en fin de saison. Je ne veux pas occulter le fait que, quand même, je rappelle à tout le monde que nous avons des joueurs importants qui se sont blessés, notamment Rémi Martin, qui était un des moteurs de notre équipe, qui a été obligé d'arrêter. Nous avons perdu Poux en deuxième ligne, on a perdu aussi Wouter Moore et Betty Phoenix sur la fin de saison. Donc je crois que ça fait, et vous apercevez quand même, c'est sur quatre deuxième lignes pratiquement qui nous ont fait défaut sur des matchs intenses où on aurait pu renverser la vapeur. Maintenant, les joueurs qui sont restés sont battus jusqu'au bout. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils ont surtout mouillé le maillot. Et là-dessus, comme je rejoins Pierre-Olivier, c'est que sur la première saison, ils ont montré beaucoup de cœur et beaucoup de technicité. Donc les espoirs sont là. On sait qu'on a un groupe fort qui peut réagir. Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour la saison à venir. Après, oui, on peut être déçu de ne pas avoir tel objectif, mais c'est normal. Hein, on se fixe des objectifs, on ne les atteint pas, on se pose des questions. Et il ne faut pas se poser de questions sur la teneur et l'envie du groupe d'aller vers le haut niveau.
Alain Paco, vous parliez de bon début de saison, puisqu'on était second à l'ouvrée de la 8e journée, si je me rappelle bien. Donc est-ce qu'à force de servir un petit peu peut-être de ces bons moments par rapport à la préparation qui va venir ce début de saison pour essayer donc de rectifier quelques erreurs peut-être. On passe notamment à quelques matchs à l'extérieur qu'on a un petit peu mal négocié peut-être, c'est bien dommage. Des points par-ci par-là qu'on n'a pas su prendre et qui ont manqué au final.
Je pense qu'il faut s'en servir, pas rêver parce que ça, peut-être qu'on ne réussira pas la même entame cette année, je ne sais pas, j'espère de tout cœur. Mais s'en servir, ça reste en mémoire et travailler avec les joueurs là-dessus. Après, les saisons ne se ressemblent pas. Je crois qu'il va falloir faire avec. L'évolution du rugby fait qu'il n'y a pas eu championnat qui se ressemble d'une année sur l'autre. Donc c'est sûr que je pense que l'équipe va se servir d'avant. Stratégiquement, effectivement, on était un peu en colère, nous aussi, sur le bord de touche, de la stratégie employée sur certains matchs, je ne vous cache pas. Mais bon, maintenant que les dirigeants ont souhaité que quelqu'un qui soit plus près du sportif, c'est qu'il y a des raisons aussi à un moment donné. Donc ça est peut-être une des raisons.
On va parler du recrutement qui a été effectué l'an passé. Donc il y a eu beaucoup de joueurs. On pense notamment à Rémi Bourdeaux, on pense à La Chalomidze, on pense à Félix Petit. On va dire que c'est un recrutement qui a été plutôt réussi cette année du côté de la SCBH.
Ben, je crois qu'il a été plutôt réussi sur la saison qui vient de s'écouler, mais il est, on en parlera peut-être tout à l'heure, sûrement du recrutement l'année prochaine.
Exactement.
Il ne faut pas oublier que ces joueurs-là étaient pour la plupart des joueurs espoirs cette saison, centre de formation, et qu'ils ont signé leur premier contrat pro. Alors quand on nous dit cette saison on n'a pas beaucoup recruté, les premiers qu'on a recrutés c'est ceux-là. On les a sécurisés. Parce que Lomidze, vous parliez tout à l'heure du match entre l'USAP, il faut savoir que le lendemain du match USAP-Béziers, Lomidze avait une proposition de Perpignan, et nous, le mardi, on a réagi, on lui a fait signer un contrat, son premier contrat pro. Donc dans la saison, ça ne se voit pas, mais ça se fait. Beaucoup de nos jeunes joueurs, notamment Rémi Bourdeaux aussi, avaient des propositions dans d'autres clubs. Donc notre premier combat, ça a été de pouvoir conserver les joueurs qu'on souhaitait conserver. Donc je suis d'accord que sur la saison dernière, on a pas l'impression qu'il y ait eu des erreurs dans le recrutement. On fait jamais un recrutement parfait. Effectivement, Alain a parlé de blessures de cadre, notamment de Rémi. Bon, Rémi, on l'a perdu sur le terrain, mais on l'a perdu aussi dans le vestiaire. Et ça a été quand même très préjudiciable pour la suite des événements. Vous avez parlé du match de Pau. Je suis pas sûr sur le match de Pau, même si on l'avait amer, ce match, parce qu'on s'est fait voler, il faut le dire. Mais bon, ça fait partie de ce qui se passe dans une saison. Je crois qu'il y a... Parce que derrière, on avait quand même gagné à Colomiers. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. On a gagné après Albi. Il y a eu aussi un match qu'on a perdu contre Aurillac à la maison, qui là, par contre, a été quand même le début d'une spirale négative. Voilà. Avec un essai de Bougami refusé. Il n'était pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça a été une spirale négative.
Pour le bilan sportif, enfin, on a rapidement brossé le topo. On va passer sur un autre bilan qui est un peu moins sympa, peut-être. Bilan financier. Alors, première question, quel budget Béziers a fini sa saison ?
Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose sur le bilan sportif ?
Allez-y. Oui.
Je disais espoir tout à l'heure. C'est que quand même, on a l'impression, même si on a fini moins bien classé que la saison dernière, qu'on a produit plus de jeux et qu'on a donné plus de plaisir aux gens qui venaient au stade. Ça s'est vu dans les affluences. Et c'est là qu'il y a la frustration dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'on était mieux armé que l'année précédente et qu'on finit finalement 11e alors qu'on avait fini 9e ou 10e l'année précédente. Donc, juste ça par rapport au sport sportif. Sur la question sur le budget, de la saison précédente a fini à 6 millions d'euros.
D'accord.
Dans le calcul du budget... On prend un des deux chiffres, celui des recettes ou celui des dépenses, celui qui est le plus élevé. Mm-hmm. Donc on a fini à 6 millions d'euros.
Il était le prévisionnel en début de saison était
à 5,7 millions.
D'accord. Donc ce qui veut dire que financièrement on a fini la saison plutôt positif.
Bah, on avait fait ce qu'il fallait puisqu'on avait prévu une augmentation de capital de l'ordre de 300 000 euros prévue au 29 juin qui a été réalisée. Qui nous permettait à la fois d'avoir les comptes équilibrés et vis-à-vis de la dernière CG, puisqu'on va finir à moins 90 000, je crois, dans les comptes, de constituer les fonds de réserve nécessaires pour qualifier nos joueurs, les fonds de réserve, qui sont passés à 10% l'année dernière et à 15% cette année. C'est un peu technique. Les fonds de réserve, c'est il faut avoir 15% de la masse salariale joueur qui soit constitué au 30 juin de l'année en cours.
D'accord.
Donc on avait fait ce qu'il fallait. On avait même un peu de gras, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'est pris un prud'homme de dernière seconde de l'année 2008, et que malgré ça, on a réussi à avoir notre fonds de réserve. On avait prévu cette augmentation de capital. Elle était prévue. Elles se font toujours au 29 juin ou au 30 juin. Dans tous les clubs.
D'accord. Alors, pour rester dans la partie financière, rapidement, on nous pose souvent la question par rapport aux blessés, notamment donc, à l'impact qu'on a parlé, par rapport à Rémi Martin qui a été blessé, Woutermour qui n'a pas beaucoup joué, etc. Donc, ce sont des salaires qui sont peut-être payés par la sécurité sociale. Est-ce que ça permet à un budget de souffler un petit peu, de respirer, de récupérer une partie de l'argent ? C'est une question toute bête. Hein.
Ça permet à un club de ou une entreprise, on va parler, là on parle de, du côté entreprise du club, le moins marrant, ça permet à un club de respirer en trésorerie. Mais ça ne permet pas à un club, contrairement à ce qu'on croit, on ne peut pas remplacer un joueur par un même salaire en disant on n'a plus ce salaire-là. Ça ne se passe pas comme ça. La DNCG est en train de valider pour tous les clubs d'ici la semaine prochaine les masses salariales, d'encadrer les masses salariales maximales pour les clubs. Il faut savoir que tous les clubs demandent le maximum. Si jamais il y a un joueur qui se blesse, il faut quand même que ce joueur-là, on va toucher des indemnités de par la sécu si c'est une blessure long terme. Mais par contre, dans le budget de la masse salariale joueur, on ne peut pas le remplacer à l'équivalent. Il faut redemander, si on veut prendre un joueur supplémentaire ou un joker médical, il faut redemander, remonter un budget et faire le budget en temps réel. Le budget en temps réel, ça veut dire si ça arrive en octobre, eh ben, où on en est du sponsoring. Et puis la Ligue va considérer qu'à cette période, on doit avoir fait 80% du sponsoring et on fait un budget au réel. Ce qui ne permet pas toujours de pouvoir recruter en supplément. Donc le joueur ne sort pas de la masse salariale. Il sort de la masse salariale s'il s'en va ou s'il est licencié. Mais il ne sort pas de la masse salariale s'il est blessé.
D'accord. Alors dernière question pour finir sur l'aspect financier avec Seb. On parle aussi de bon, il y a l'aspect droit télé qui va augmenter cette année, puisque on va passer au match le vendredi, donc ça va bouleverser pas mal de choses. Est-ce que ça va avoir une influence? Et aussi par rapport à l'affluence qui a été fortement annoncée cette année par rapport aux autres années. Donc là, pour les supporters, on les remercie, qui nous écoutent, qui amène donc forcément peut-être de la trésorerie. On parlait après tout à l'heure au club, peut-être, au cours de l'année. Est-ce que ça va être pris en compte? On en parlait tout à l'heure, mais c'est bien de l'aborder. Est-ce que ça va vous apporter quelque chose de plus par rapport au budget?
Oui, enfin, là, on est sur la plus grosse augmentation que les clubs de Pro D2 et de Top 14 ont eue, c'est l'année dernière par les droits télé négociés sur le Top 14, puisqu'il y a une répartition entre le Top 14 et la Pro D2. Là, il y a des grosses sommes d'argent. Donc, on est passé de mémoire de 900 000 euros à 1 450 000 euros garantis. Il y a une partie qui est en variable, donc il va se rajuster maintenant. Entre parenthèses, on ne touche pas tout l'argent dans la saison, on touche une partie de l'argent en septembre l'année prochaine. Donc, fin septembre là, donc ce qui peut poser quelquefois des soucis de trésorerie par ailleurs.
Oui,
pour expliquer la différence entre le budget et la trésorerie, c'est deux choses bien différentes et bien distinctes. Ça fera taire certaines rumeurs aussi sur ce sujet. Ce que je disais, c'est que sur la Pro D2 qui a été renégociée à la hausse, aujourd'hui, la DNACG, depuis samedi, ça a été voté, nous octroie 100 000 euros de supplément à mettre dans nos budgets. Voilà, en garantie.
D'accord.
Donc c'est 100 000 euros de plus. Nous, on espère qu'il n'y aura pas de perte d'affluence, déjà parce qu'on sera bon sur le terrain, ça part de là quand même. Le calendrier sur les matchs allés, bon, je ne vais pas le dévoiler maintenant, mais on vient de l'avoir il y a quelques minutes. Il est assez favorable sur les matchs allés pour les affluences. Bon, on devrait... il faut qu'on soit bon sportivement. Après, le vendredi soir, entre nous, on n'avait pas le choix. Quand la télé décide qu'ils nous augmenteront les droits télé que si on joue le vendredi soir, qui va aller s'amuser à voter contre?
D'ailleurs, quelle était la position du club à ce sujet?
La position du club a été favorable, comme tous les clubs de Pro D2. Voilà, parce qu'en plus, il faut être solidaire. Et puis, je suis très clair, on n'a pas voté contre le vendredi soir. Parce qu'on ne peut pas aller contre la télé, c'est ça qui nous permet d'augmenter les budgets. Je sais que c'est problématique pour les supporters et Dieu sait si à Béziers ils sont fidèles, notamment pour les déplacements du vendredi. Parce qu'aller à Biarritz ou à Bayonne, bon, il y a pire, hein, mais un vendredi, c'est compliqué. Pour nous dirigeants aussi. Mais voilà, comment faire autrement et comment refuser des augmentations? En tout cas, pour les partenaires dans les loges, on a l'impression que c'est plutôt ça va plutôt dans le bon sens. Voilà.
Très bien, Seb, je crois qu'on a fini cette première partie.
Mais écoute, oui, on a bouclé cette partie bilan sportif et financier. Alors, on rappelle juste que forcément, il n'y aura pas toutes les questions qui auront été posées. On en parlera à la fin, mais il y a une assemblée générale avec Rugby Terre au 24 juillet. Normalement, vous y serez, enfin, j'espère.
Je suis invité, je viendrai.
Voilà, et l'invitation est passée. Et ben, on encourage toutes celles et ceux qui se posent des questions, beaucoup notamment sur Internet, à venir les poser en face à face aux dirigeants et aux staff sportifs qui seront présents. On vous laisse quelques minutes et on vous reprend de suite après. Restez fidèles.
Écoutez Radio Ciel Bleu sur notre site radiocielbleu.fr et suivez les matchs de l'ASBH en direct dans le monde entier grâce à nos partenaires.
Sietel Sietelec, le spécialiste du courant fort et du courant faible à Béziers.
Elipro, le distributeur spécialisé dans la fabrication, la vente de produits et de matériel d'hygiène à Lézignan-Corbière.
CIC Iberbanco, la banque ouverte sur demande à Béziers.
Le casino barrière du Cap d'Agde.
Le groupe Marty, distributeur et réparateur agréé de véhicules utilitaires et poids lourds Renault Trucks depuis plus de 70 ans à Béziers.
Et les sablières du littoral à Béziers et Maraussan.
Et nous voilà donc de retour, toujours avec Rémi, Pierre-Olivier Vallès, Alain Paco, dans cette émission spéciale sur Radio Ciel Bleu, toujours à l'hôtel Ibis, à Béziers. Alors, l'intersaison, tout d'abord, on a eu un communiqué parlant de réorganisation, etc. Il y avait eu un communiqué juste avant montrant un petit peu d'agacement de la part du club, notamment sur des rumeurs de reprise. Qui ont été lancés par le Midi Olympique en décembre, où, sur une interview quasi anodine de Louis Nicolin, on a commencé à parler de Roger Santa, et puis après, la machine s'est emballée complètement. Ça fait quasiment 6 mois que tout Béziers en parle. Beaucoup de monde pensait que ça allait être la révolution à l'intersaison. Vous êtes encore là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui a pu se passer, ce qui s'est passé? Lors d'une dernière interview à Match, vous aviez parlé d'augmentation de partenariat ou d'actionnariat, savoir où on en est. Voilà. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots à nos auditeurs et aux supporters?
Oui, sans problème. J'ai été fatigué de démentir sans cesse des rumeurs. Et on démentait mes démentis. Donc ça m'a mis en colère en fin de saison. Parce que ça tout simple, pour une seule raison, c'est pas personnel, c'est une seule raison, c'est que ça nuit au club. Toutes ces rumeurs infondées ou en tout cas prématurées ont nuit au club. Est-ce que ça nuit à la réalisation de certaines entrées de partenaires? Peut-être. Et là-dessus, j'en ai voulu à tous les médias qui ont communiqué sans savoir, sans vérifier leurs informations. Alors que les médias entendent des rumeurs, oui, mais que ces rumeurs soient fondées, non. Donc il y a eu des discussions. On n'a jamais, aucun des actionnaires, des 5 actionnaires, n'ont caché qu'ils étaient d'accord pour, s'il le fallait, céder le club, mais pas n'importe quel prix, si c'était l'intérêt du club, ou s'ouvrir en tout cas à d'autres partenaires. Et on est toujours dans ce schéma-là de pouvoir s'ouvrir à d'autres partenaires pour faire grandir le club et faire grandir les budgets, parce qu'on ne peut pas... compter sur le droit télé et pas que sur nous 5. Et donc, par rapport à ça, on s'était ouvert à des choses. Il y a eu des rencontres. Une qui était en... Alors, des rencontres avec Louis Nicolin, il n'y en a jamais eu. Des contacts avec Louis Nicolin, il n'y en a jamais eu. Je suis très clair. Des rencontres en mairie, il y en a eu 2. Mais des propositions, je suis très clair dans ce que je vais dire, des propositions concrètes pour racheter le club ou pour rentrer avec nous au club, il n'y en a pas eu. Il n'y en a eu aucune. Donc quand je lis pas les réseaux sociaux, mais on m'en fait part quand même.
Vous devriez le dire.
Ouais, je suis pas sûr. Mais quand on dit qu'on a refusé des propositions, que la personne vienne le dire à l'Assemblée générale ou ailleurs et qu'il nous amène la proposition qui nous avait été donnée, aucune proposition ne nous a été faite. Il y a eu des discussions pour, mais il n'y a jamais eu des discussions pour qu'on parte. C'était des discussions pour pouvoir avoir des partenaires complémentaires qui puissent venir nous aider. Elles n'ont pas abouti parce que. Alors pourquoi, je ne sais pas exactement, parce qu'après, au bout d'un moment, ça nous échappe. Est-ce qu'on avait les bons interlocuteurs en face de nous ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes cachées derrière? Puis bon, quand il faut sortir le chéquier, il y a certaines discussions qui s'arrêtent. Donc voilà, aujourd'hui, on redémarre sur le même schéma.
Le club des 5
Oui, mais le club des 5. Et voilà, et on est dans la même optique, mais bon, on va pas le crier tous les jours parce qu'aujourd'hui, toutes les discussions sont closes à 7h. Mais bon, si en cours de saison, il y a des discussions qui peuvent s'ouvrir pour faire encore une fois avancer le club, et notamment les budgets du club, pour amener de l'argent frais aux sportifs, je dis bien c'est pour le sportif, on est ouvert. Maintenant, il faudra peut-être qu'on les fasse encore plus cachés s'il y en avait, pour pas que ça, qu'il y ait des fausses rumeurs. Après, comme je vous dis, il y a des noms qui ont circulé. Certains, c'est des gens qu'on a rencontrés, d'autres, je ne sais même pas qui c'est. C'est des gens qu'on a appris par la presse qu'on avait rencontré un tel et un tel. On s'est retrouvé dans des situations quand même assez hallucinantes où certaines personnes, on s'est retrouvé à des apéros, des choses comme ça, où certaines personnes nous disaient « mais je t'ai vu à tel endroit, tu ne veux pas me le dire, mais tu étais là ». Mais ça, on arrive dans des schémas complètement délirants. Voilà. Après, ça fait vivre le club. Le club vit. Donc moi, j'essaie de regarder. Je suis moins en colère aujourd'hui. On redémarre une nouvelle saison. J'essaie de regarder le club. Le club qui n'aurait pas de gens qui s'y intéressent, de rumeurs. C'est un club mort. Donc on a un club qui vit. C'est la chance. On a des supporters formidables qui viennent en déplacement comme aucun club n'en a en France à ce jour. Voilà, on a cette chance-là d'avoir des gens passionnés. Donc là-dessus, je veux voir le bon côté des choses. Quelquefois. Les passions sont un peu extrêmes, peut-être, mais bon, voilà. Et le tout, c'est que ça ne nuise pas au club, qu'on raconte des choses. S'il y avait vraiment des tractations, il faudrait les laisser travailler tranquillement. Voilà.
Président, vous parlez de déstabilisation au cours de la saison par rapport donc à ces rumeurs. Enfin, c'était écrit dans un communiqué au cours de la saison. On avait entendu parler de grève de joueurs à un moment donné, des joueurs qui s'étaient réunis sur un entraînement, qui avaient décidé donc de ne pas se réunir pour l'entraînement. On peut en parler ? On peut en discuter ?
Ouais, on a eu... il n'y a pas eu de grève de joueurs. Hein. Il y a eu un joueur qui a... Voilà, bon, mais c'est une histoire ancienne. Tu veux en parler ?
Non, je peux le développer.
Il n'y a pas eu de grève de joueurs.
C'est suite à des soucis que nous avons eus entre entraîneurs éventuels. Et les joueurs ont voulu prendre la main dessus et sortir de ces petites querelles... qui était né entre les deux entraîneurs pour se prendre en main, mais les entraîneurs étaient présents à l'entraînement quand même. Les joueurs sont pris en main, mais ça a été fait de façon interne, et je crois que c'est, quand on règle les histoires en famille, c'est quand même mieux, même s'il y a des rumeurs extérieures, il n'y a pas une famille qui passe la vie sans se prendre la tête à un moment donné ou un autre. Nous, on en fait partie, et c'est vrai que tout ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre-Olivier, sur les rumeurs, ont accentué les petites chinoiseries qu'il pouvait y avoir à l'interne. Ça a créé de la tension à l'interne et ça aurait pu coûter cher au club à la sortie. Donc voilà. Nous, on essaie de protéger nos joueurs au maximum. Quand il y a des choses à leur dire, à aujourd'hui, on va pouvoir leur dire un peu plus que ce que le faisait auparavant, puisque maintenant, les dirigeants ont décidé, et le président a décidé de mettre quelqu'un au sportif carrément pour chapeauter l'ensemble du sport et du rugby dans le club. Donc maintenant, on va pouvoir aller voir ce qui se passe un peu plus près. Et je vous dis, il faut protéger l'équipe au maximum parce que c'est un véhicule de course et qu'il ne faut pas que ça se dérègle. Voilà.
Après, je crois que la déstabilisation du club, elle a été plus pour les joueurs que pour les dirigeants. Hein, parce que nous, on savait où on allait. À part démentir et dire non, c'est faux, on n'avait pas grand-chose à dire. À part ça, les joueurs ont été déstabilisés parce que les joueurs entendaient les choses et disaient ouais, voilà, de toute façon, ça va être un tel maintenant, le président, il va se passer ça. Et quand même, si c'était vrai et que ça apporte quelque chose au club, ça serait le cas. C'est pas un problème. Mais je vous le répète, il n'y a eu aucune proposition. Après, les joueurs, bon, une saison, c'est long. Quand les résultats vont bien, tout va bien. Quand les résultats sont un peu moins bien, les joueurs, ils se voient tous les jours, deux fois par jour, il peut y avoir des tensions, c'est normal. Donc en début de saison, ça va toujours bien.
Oui, voilà. Forcément. Donc Rémi parlait de communiqué. Le dernier communiqué qui est paru, beaucoup de personnes ne l'ont pas compris concernant une éventuelle réorganisation interne. Notamment, il a été question de Christophe Antunes et Philippe Pastor dans ce communiqué-là. Quel est aujourd'hui, puisqu'on est, vous le dites, on redémarre une nouvelle saison, quel est l'organigramme à la tête du club ? Est-ce qu'on est toujours sur un consortium de 5 personnes ? Vous êtes toujours président ? Est-ce qu'il y a des coprésidents ? Qui est à la tête du club et comment se passent les décisions ?
Aujourd'hui, le club est organisé comme la plupart des clubs, comme Toulouse ou d'autres, avec un conseil de surveillance et un directoire. Donc Cédric Bistuet est toujours le président du conseil de surveillance. Et je suis le président du directoire. Et dans le directoire, il a été sont entrés Alain Paco, sont entrés depuis déjà quelques semaines, Didier Miquel, et sont Christophe Antunes et Philippe Pastor, qui ont proposé d'organiser, de chapeauter et de diriger des commissions en les élargissant, parce qu'il y a beaucoup de personnes de bonne volonté bénévoles qui sont prêtes à aider le club, et qu'à un moment donné, on s'est peut-être retrouvé un peu isolé, un peu pas assez nombreux pour gérer un club comme la SBH. Et au-delà du club, une entreprise de plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas rien, et qu'il était souhaitable qu'on puisse travailler les dossiers plus rapidement et plus en amont, et puis anticiper certaines choses qu'on n'arrivait pas à anticiper parce qu'on était dans le quotidien. Donc il y a des commissions qui ont été créées, et par rapport à ça, Philippe et Christophe s'occupent de ces commissions, en sont responsables et ont toute latitude pour les gérer. Ils le font très, très bien et ça démarre bien parce qu'il y a plus des nouvelles têtes, de gens qui veulent aider le club bénévolement, j'insiste, parce que tout le monde est bénévole dans cette histoire.
D'accord. Donc, après l'organisation, enfin l'organigramme à la tête du club, l'organisation sportive. Alors, Alain Paco, quel est votre rôle aujourd'hui? Et dessous, enfin, j'imagine que, puisque vous avez parlé tout à l'heure de chapeauter le sportif, oui. Donc quel est le staff sportif début de saison?
J'ai eu beaucoup de titres, mais apparemment le dernier c'est directeur du rugby dans le club. Donc ça veut dire c'est un amalgame de manager, de directeur sportif, en fait c'est celui qui fait que le bateau avance bien, que le sportif avance bien, d'anticiper, de programmer, vous savez ce que c'est on recrute maintenant un an à l'avance, ça veut dire de prévoir et de faire part de mes observations, en plus de la gestion humaine et relationnelle entre les gens qui constituent tout le sportif, et il y a beaucoup de monde, donc j'aurai aussi la charge de leur faire des bilans assez souvent pour qu'on puisse diriger le bateau au plus près, et qu'on ait moins de soucis arrivés en fin de saison. Bon, jusqu'à présent, on l'a fait de façon un peu anachronique, mais ça a marché. Il ne faut pas croire, pendant 3 ans et demi, je vous rappelle qu'on est parti quand même de très très bas. Et il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé depuis 3 ans et demi, je ne l'oublie pas, parce que nous, on a transpiré beaucoup. Bon, on a été beaucoup critiqués, certes, mais bon, vous savez, il faut que les gens viennent un peu voir que si on était à Toulon, ça serait plus facile d'avoir des joueurs. Et à Béziers, il faut vraiment compter aux centimes d'euros près. Donc voilà. Après, sur le sportif, donc, je chapeaute un entraîneur principal qui sera Manny Edmonds, qui va être avec 2 adjoints, Carmignani, qui était déjà là l'année dernière, qui vont s'occuper des avants avec Pépé Todérasque. Et va s'adjoindre à eux pour une grosse partie de la saison, qui va travailler avec eux puisqu'on veut une cohésion totale entre le centre de formation et l'équipe 1, Diego Minaro, qui va travailler avec eux en étroite collaboration. À savoir que notre projet de jeu va descendre même sur l'association, donc puisque Christophe Chollet va intégrer aussi le centre de formation, même il est directeur sportif de la Somme, il va intégrer le centre. Donc vous voyez un peu, on essaie d'imbriquer tout le monde dans ce club et de concerner tout le monde. Donc ça veut dire que le projet de jeu va descendre jusqu'au cadet de l'SBH. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont mises en place. Et après, mon rôle, voilà, c'est chapeauter et d'être en relation avec le côté médical, le côté des préparateurs physiques, même si c'est les coachs qui s'en occupent. Mais j'ai à gérer toutes ces personnes-là et à moi d'être au plus près d'eux, de faire les observations qui seront nécessaires sur un plan technique ou résultat. Il y aura des réunions après chaque bloc qui existait déjà l'année dernière, on ne le disait pas, mais on se voyait à tout après tous les blocs. Donc on fait le bilan, mais là par contre, le changement, c'est que peut-être la direction fera entendre plus sa voix sur le sportif qu'elle ne l'a fait que par le passé. Donc ça ne va pas dire de les empêcher de tourner, au contraire, on va leur donner des arguments de mieux réfléchir. Et après, s'il faut trancher, on sera même de trancher, ce qui n'était pas le cas la saison passée.
Alors, sans faire de transition, on va parler du recrutement à venir, donc, pour cette année. Donc, on a eu déjà des échos par rapport au communiqué que le club a fait. D'ailleurs, petite question, peut-être une indiscrétion, est-ce que vous connaissez le capitaine pour l'année prochaine?
Je crois qu'ils vont le dévoiler assez... Voilà, ça, je préfère que ce soir, vous posiez la question peut-être à l'entraîneur principal.
Moi, d'accord.
Je le connais, je pense qu'on va partir sur une base. Je peux juste vous dévoiler que ça va se baser sur 2 garçons. Qui sont reconnus par tout le groupe, et voilà, si l'entraîneur veut vous les dévoiler ce soir, si j'espère qu'il l'a fait déjà aux joueurs, parce que je ne voudrais pas faire une bêtise, donc voilà, je peux vous dévoiler qu'il y en aura deux pilotes dans l'avion.
Capitaine et vice-capitaine, voilà. On est d'accord. Très bien, donc on va passer avec vous deux messieurs, au recrutement donc, qui s'est passé cette année. On va faire un petit point par ligne, si vous le voulez bien, faire un point donc, sur ce qui s'est passé durant cette certaine saison, donc recrutement avec devant Timothée Lafont, Bernier Tocquetui, Thomas Seit, Jean-Baptiste Barrère et Bakary Meite. Donc c'est le retour au sein de la SBH. Et derrière, Lucky Monroe. On va parler aussi après en filigrane du centre de formation aussi.
Surtout du petit Lambé Félix qui est quand même recruté par les coachs pour faire partie du groupe première.
Il sera impliqué dans la groupe pro.
Ah, de suite. Donc,
d'accord.
Il ne faut pas croire qu'on n'a pas recruté de deuxième ligne. Il fait partie de... Et alors, vous allez voir, il ne faut pas oublier non plus qu'Emou,
la Corroy.
Voilà, donc qui est quand même un garçon qui a fait ses preuves sur fin de saison et il va surprendre beaucoup de monde.
Je veux juste rajouter quelque chose parce que Alain, je sais qu'il connaît toutes les recrues par cœur et tous les mots, tous les noms, parce que je viens d'entendre qu'il prononçait très bien.
Apparemment, M. Paco parle très bien le pidgin.
Je le dis. Ouais. Je l'appellerai de manière plus courte, moi. Clément. Les premiers recrutements qu'on a fait, ça a été de re-signer des contrats aux joueurs, soit qui voulaient partir parce qu'ils avaient des propositions ailleurs. Et ça s'est pas vu tout au long de la saison. Soit de signer des joueurs qui étaient en fin de contrat. Ça a été quand même le premier travail qu'on a fait, parce que s'asseoir sur ce qu'on avait.
Si vous voulez un renouvellement, vous avez 10 contrats renouvelés. Voilà. Mmh. Je les ai, si vous voulez les noms.
Allez, vous écoutez.
J'ai Fernandez, Chico, Sradjoti, Locotui, Bordeaux, Zouer, Suchier, Puletea, Vakasegou, Kmir et Maré. Donc on l'oublie un peu, mais c'est notre premier recrutement. Mmh. Ça fait quand même 10 garçons qu'on a conservés dans nos lignes. Donc voilà, ils auraient pu partir.
On peut ajouter à cela des joueurs qui ont eu des propositions de top 14, oui. Je vais taire les noms, mais qui, bon, à part Bougami qu'on n'a pas réussi à garder, ou Marc avait une peur de sortie aussi, oui. Mais des joueurs qu'il a fallu revoir à la hausse au niveau des contrats, oui. pour pouvoir les garder. Même s'ils étaient déjà sous contrat, certains avaient des clauses et pouvaient partir. Donc,
à savoir qu'on recrute, voilà. Que les renouvellements que nous faisons se font sur 2 ans. On n'a plus de contrat comme avant, à 3-4 ans de signer d'avance. On travaille surtout sur 2 ans sur des valeurs sûres et du 1 plus 1 sur des gens sur un corps où on a des doutes et voilà, et les gens, on les incite à nous prouver qu'on peut leur faire confiance. Donc, et voilà, si vous permettez, je reviendrai sur l'affaire Chico Fernandez où j'ai vu passer apparemment dans la presse ou dans les réseaux sociaux des gens qui se regroupaient. Il faut savoir que Chico était dans les cartons, donc on attendait pour le refaire signer parce que c'est un garçon qui a un tempérament de feu et que dans un premier temps, les entraîneurs n'avaient pas souhaité conserver du fait de son tempérament. Donc c'est pas l'affaire de faire des pétitions. Nous, on essaie de réfléchir entre nous avec des techniciens, parce que je réfléchis pas seul, que tout le monde le sache, c'est pas Alain Paco qui fait seul le recrutement. On a des techniciens dans le club, on prend l'avis des techniciens, on prend l'avis aussi des présidents pour qu'ils donnent aussi leur ressenti, et après seulement on prend des décisions. Chico, dans un premier temps, nous avait été demandé de le faire partir, donc voilà, on l'a conservé dans les cartons et on a pu le ressortir et le refaire signer. Mais voilà, ça fait partie des choses où on a pu le faire parce qu'il s'est dégagé un poste. Et voilà, donc c'est pas la peine qu'on nous fasse des pétitions, parce que je le subis mal, parce que ça veut dire que les gens qui sont au club n'y entendent rien. Je pense qu'avec les techniciens qu'il y a dedans, on peut quand même faire face.
Alain Paco, pour faire un bilan de ce recrutement, est-ce que vous estimez qu'il est suffisant, notamment par rapport à... On avait parlé de Wouter Moore, donc, qui avait arrêté sa carrière malheureusement.
Oui.
On avait dit qu'il serait éventuellement remplacé au jour d'aujourd'hui. Numériquement, est-ce qu'il n'a pas été remplacé?
Après, il y a eu des choix. Encore une fois, de la part d'entraîneur, de prendre une troisième ligne pour ne pas le citer Barrère. Donc, ils ont fait le choix de dire, bon, on va faire avec les jeunes que nous avons pris, que ce soit Seyte, Lambé, qui arrive au club, plus Kemou qui monte d'un cran. Donc voilà, ils ont fait le choix de partir sur ces jeunes-là. Donc après, on n'a pas les moyens de recruter à tous les postes. Vous me dites, c'est suffisant, je dirais non. On a 29 contrats comptabilisés dans ce club, plus les 3 ou 4 qui ne comptent pas puisqu'ils sortent du centre de formation. Mais fait, ça fait une trentaine de contrats. Il faudrait qu'on ait 35, 36. C'est sûr que ça, au niveau effectif, si on avait les moyens, il y en aurait plus. Je ne vous le cache pas. Après, on sait très bien qu'on prend un pari. On prend un pari sur la deuxième ligne avec des jeunes joueurs. Après, si les gens nous reprochent d'avoir fait sortir Lomizier, Bourdeau, Kemou, il faut qu'ils le disent. Mais à un moment donné, dans notre job, c'est de dire on dépense moins à ce poste pour l'instant et on fait confiance aux jeunes joueurs. Et si peut-être on aura une perle rare. Après, si on se trompe, celui qui ne s'est pas trompé dans le recrutement, même en top 14, qui se lève.
Peut-être un joker, voilà. Éventuellement plus tard.
Je ne sais pas, on attend la validation d'une masse salariale qu'on a demandé maximale, on l'aura là d'ici vendredi prochain. Après, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des jeunes des joueurs plus expérimentés en seconde ligne, alors que ça choque personne qu'on ait fait ça en numéro 9 ou en numéro 10? Donc, attendons de voir qualité des jeunes qu'on a recrutés.
Je vous rappelle quand même qu'on a quand même Locotui et Betty qui sont deux très grands joueurs, même si l'un qui est en Coupe du Monde au début. Mais la saison est longue, donc je veux dire que si ces jeunes-là arrivent à nous prouver dans les premiers temps qu'il n'est pas là, après on aura le temps d'aviser, et c'est aux dirigeants après de...
Après il y a un jeune aussi du centre, qui a été recruté au centre de formation,
Carcassonné.
Carcassonné, par exemple.
Avec un gabarit impressionnant. Vous pensez l'intégrer hein, équipe pro, s'il fait ses preuves.
Je n'ai pas peur de l'âge. C'est la capacité du garçon à franchir un palier. C'est pas, il ne faut pas les amener à se faire tuer sur un premier.
Personne année. N'aurait parié sur Bordeaux et Lomizé l'année dernière dans l'équipe professionnelle.
Et Kemou qui a été pris dans l'urgence puisqu'il n'y avait plus de deuxième ligne. Donc aujourd'hui, on a un réservoir jeune. C'est vrai qu'en deuxième ligne, on parie un peu plus léger. Après, il y aura le temps de poser des questions et de voir si on peut réadapter, mais ça sera dans une deuxième partie. Voilà, a priori, c'est vrai que les gens, quand ils regardent la photocopie de la composition d'équipe, peuvent se poser la question et en deuxième ligne.
Un dernier mot voilà. Juste pour conclure sur le recrutement, je m'excuse. Sur Richao, qui est parti à Lille, donc, c'est un garçon qu'on a fait signer 2 ans, je crois. Oui. On va dire que Richao, ça n'a pas été une franche réussite hein, sportive. Oui. Hein, c'est oui. Rien contre le garçon, il n'y a pas de souci. Mais c'est plutôt un arrangement à l'amiable qui s'est passé pour ce garçon.
Ah oui, oui. Ouais. De toute manière, on n'a pas laissé le garçon dans l'embarras. Hein. On lui a trouvé un club, on s'est arrangé avec son agent. Le garçon, il va continuer sur la dernière année de contrat qu'il avait au même tarif. Donc même s'il est parti à Lille, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est les arrangements qui se font. Hein.
C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours communiquer trop tôt. On nous a reproché de communiquer, mais on ne pouvait pas communiquer Richard Rao. Il est parti de mémoire il y a 2 lundis. Donc jusque-là, communiquer comment? Et il faut à la fois recruter, mais à la fois laisser des places si on veut recruter. Donc il y a des joueurs sous contrat qui ne conviennent plus au club pour pouvoir leur trouver d'autres clubs, parce qu'on ne fait pas des licenciements comme ça. Il faut travailler en sous-marin. Quoi. Voilà, il faut travailler calmement en sous-marin pour pouvoir laisser des places et pouvoir recruter à côté.
Très bien. Dernière, juste avant de conclure, la LNR a rouvert des périodes de transfert. Donc vous le confirmez, il n'y a pas de... Même pas un joker comme du monde, parce qu'on peut recruter un joueur pour les 3 mois. C'est pas dans les tuyaux.
On a jusqu'au 15 août pour recruter un prêt de joueurs.
Oui, c'est ça.
Et jusqu'au 15 septembre pour des joueurs ayant un contrat sur la dernière saison qui n'ont pas trouvé contrat cette année.
Tout à fait.
Donc là, on va voir. On va prendre les listes. On va voir, nous, les résultats de la DNACG, voir un peu où on est. Et après, on se posera les bonnes questions. Après, ça fera partie des questions qui seront étudiées par les gens du club, les patrons du club. Et puis, on verra ensuite. Voilà. On ne ferme pas la porte. On ne ferme la porte à rien. Mais s'il y a une possibilité, si vraiment on sent une faiblesse, parce qu'on a toujours été à même quand même de répondre à un événement en particulier.
Bon, on espère que ça rassurera certains pessimistes. Bah écoutez, on fait une dernière petite pause avant d'attaquer la dernière partie. On vous donne rendez-vous tout de suite après.
www.rugbyterre.com, une seule adresse pour retrouver toute l'actu des supporters autour des Rouges et Bleus. Infos, déplacements, articles, interviews, photos de matchs, restez au contact de votre passion. Retrouvez également les matchs en live ainsi que les matchs du rugby en rediffusion de Radio Ciel Bleu. Vous pouvez également adhérer pour soutenir les Biterrois, profiter de nos nombreux avantages et rejoindre la plus grande famille de supporters de la SBH. Avec Rugbyterre, sème des Béziers.
Et nous voilà de retour pour cette troisième et dernière partie de cette quatrième mi-temps, toujours à l'Hôtel Ibis avec Rémi, Pierre-Olivier Valèze et Alain Paco. Alors, cette dernière partie, on va se projeter, on va arrêter de ressasser le passé, l'intersaison, on va maintenant enfin se projeter sur la prochaine saison. Première question, toute simple, on a parlé du budget de la saison dernière, la saison prochaine, quel est le budget prévisionnel?
Le budget prévisionnel de l'année prochaine sera de 6,3 millions.
D'accord, donc
une augmentation de 5% par rapport à cette année. Voilà, enfin par rapport au budget final de l'année dernière, parce que par rapport au budget prévisionnel, ça fait plus. Voilà, donc on fait avec ce qu'on peut. On a parlé tout à l'heure de la... On peut voir que dans tous les clubs, à peu près, le sponsoring qu'on arrive à faire privé, collectivité, ça représente à peu près la masse salariale des clubs. C'est pareil en top 14. Hein. Donc, si demain on trouve des gros sponsors, ça ira, je dirais, nationaux ou internationaux, ça ira forcément sur le sportif. Parce que, donc, on essaie de réduire au maximum les charges qu'on peut réduire.
Allez.
Si on peut reparler un petit peu de l'année dernière, on était la 11e masse salariale de la poule. Je me trompe. Voilà.
Donc, la masse salariale est vraiment...
Joueur.
Oui, la masse salariale joueur est un élément important dans le budget. Enfin,
On a un problème structurel qui est un avantage et un inconvénient, c'est qu'on a un stade et des installations dignes du top 14, mais qui coûtent cher en Pro D2. Sauf si on augmente fortement les affluences, on va pas se plaindre d'avoir des belles loges, on va pas se plaindre d'avoir des salons pour accueillir, même si quelquefois on voudrait que ce soit encore plus grand. Mais voilà, la sécurité au stade coûte cher parce que le stade est vaste. Donc La location du stade coûtait cher, mais là, on a revu les choses dans la nouvelle convention avec la mairie. Donc, on a une location qui va baisser de 100 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça, ça va permettre de faire des économies. Mais on a cette problématique d'un club qui a été en top 14 ou en top 16 et qui a gardé quelque part les mêmes charges qu'à l'époque sur ses frais de structure. Voilà. Donc, on y travaille pour faire des économies.
D'accord. L'ambition. Alors là, on va revenir un petit peu en arrière. Après, je vous laisse. À votre arrivée en 2011, il y avait un plan sur 5 ans. Le budget était de 4,5 millions. Faites-moi dire si je me trompe. Avec une ambition au bout de 5 ans de monter en top 14 en passant par une étape demi-finale. Cette saison, à la fin de la saison prochaine, donc, on arrivera à l'issue de ce plan de 5 ans. Quel est l'objectif sportif cette saison? Est-ce que vous pensez, avec peut-être que Béziers puisse être la surprise de ce championnat?
Je crois que par rapport à ce qu'on avait prévu il y a 5 ans, il y a certaines données qui ont été modifiées. C'est la Pro D2 est devenue beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était. Alors aussi beaucoup plus attractive. On voit tous les clubs qui sont en Pro D2. On vient voir, on a failli avoir un club basque, ben finalement on aura deux. Ben ça fera deux beaux déplacements pour les supporters, deux belles affiches à Béziers. Voilà, on a aujourd'hui beaucoup de clubs en Pro D2 qui ont été champions de France il n'y a pas si longtemps, ou qui ont été en haut du top 14 il n'y a pas si longtemps. Donc cette donnée, on l'avait pas il y a 4 ans, parce que ces clubs-là, qui aurait pu penser que Perpignan allait descendre, que Biarritz allait descendre, que Bayonne allait descendre, voilà, c'était improbable. Après, peut-être que nous aussi, on n'avait peut-être pas complètement imaginé la difficulté de la tâche pour faire progresser le club. Je pense quand même qu'on l'a fait progresser, même si encore une fois, on est déçu de l'année dernière, sur le plan en tout cas comptable au niveau de notre place. L'an prochain, on veut figurer dans la première partie du tableau, ça c'est certain, et on voudrait pouvoir accrocher la 5e place qualificative. Donc se dire on va finir dans les deux premiers, quand on voit Lyon qui arrive, bon, Bayonne et Biarritz, on sait pas trop ce que ça va donner, mais ils seront quand même là. Perpignan qui se Mont-de-Marsan, qui sera notre premier match à Méditerranée pour le démarrage de la saison. On a fini avec Mont-de-Marsan, on redémarre avec Mont-de-Marsan. Bon, et après, on enchaînera avec un match à l'extérieur et avec la réception de Lyon. Et notre premier derby contre Narbonne. Donc, c'est difficile de se poser des questions. Et il faut tenir une saison entière. Donc, voilà. Mais l'objectif, c'est ça. C'est la première partie du championnat. Et si on peut aller chercher la 5e place qualificative, on s'en privera pas.
C'est pas un manque d'ambition. Hein. C'est juste un réalisme qu'il faut prendre en compte, parce que c'est... On a beaucoup d'humilité en démarrant ce championnat, parce que, comme il le disait, le président, ça va être de plus en plus dur. Donc il y a des gens qui sont plus outillés que nous, sûrement. Mais après, j'ai confiance dans le groupe, parce que c'est un groupe qui est fort, qui vit bien, qui va surmonter des difficultés, j'en suis persuadé. Et ils vont nous amener de bonnes surprises, je le pense fortement.
On l'espère tous. Alain, le calendrier est sorti aujourd'hui, jeudi. Oui, jeudi, c'est ça. Oui. Je ne sais plus quel jour nous sommes. À la vue de la première partie, puisqu'après il y a une longue pause Coupe du Monde, quelles sont les ambitions de Béziers dans ce tout début de championnat? Tout gagner, j'imagine.
Je réponds bêtement. gagner le plus de matchs possible. Donc les ambitions, c'est voilà, maintenant il ne faut pas se poser de questions. Il faut savoir qu'on est dans le milieu du tableau avec possibilité de finir dans les phases, dans les équipes qui puissent se qualifier. Donc maintenant, il ne faut pas réfléchir. Quoi. Je crois qu'il faut s'envoyer sur tous les matchs, pas poser des questions. Surtout, ne pas jouer avec le frère même, parce que ça peut nous causer des problèmes. Il ne faut pas calculer à autre mesure. Après, il y a des stratégies, que, comme on disait tout à l'heure, qu'il va falloir mettre en place sur l'extérieur, qui n'était pas le cas peut-être sur la saison passée. Il va falloir un peu plus jouer et réfléchir à ce qu'on fait sur le terrain avant d'aller s'épuiser contre voilà, des choses insurmontables. Donc il y a des choses à prendre, des points à prendre, il faut les prendre et... Et pas que jouer au rugby. J'aime bien le beau jeu, mais le côté comptable, j'aime aussi. Donc,
pragmatique.
Il faut prendre des points.
Ok. En parlant des matchs, avant le début de championnat, il y a les traditionnels matchs amicaux. Est-ce que vous pouvez nous... Alors, on a eu le premier match contre Brive, je crois, au Vaquerin. Après, c'est point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations, soit avant le championnat, ou peut-être la période de Coupe du Monde?
Pour l'instant, il n'y aura que deux matchs amicaux. Donc, le premier se situe à Camarès, vous l'avez dit, le 2 août. Je pense que c'est à 18h30 qu'il est prévu. Et le deuxième match qui va se jouer, c'est le 11 août, à la Méditerranée. contre les Zèbres de Parme, une équipe qui va jouer la Coupe d'Europe. Donc voilà, qui ont souhaité nous rencontrer et ça va faire une très belle affiche. J'espère que le public va répondre présent. Pourquoi cette date? Parce qu'après il y a la Feria et qu'on ne voulait pas rentrer en concurrence et on nous a été demandé de ne pas rentrer en concurrence avec les événements liés à la Feria. Donc je crois qu'on peut le faire et autant s'arranger avec tout le monde et pouvoir faire de cette semaine une grande semaine rugbyistique et festive.
Toujours sur la saison 2015-2016, voilà, je vais m'adresser au président par rapport aux abonnements. Donc on a constaté qu'on touchait au match du prestige, qu'on disait en fait par rapport à ce prix, que les supporters ont subi à plusieurs reprises à l'extérieur. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Non pas qu'on va se venger sur les supporters adverses, loin de là. Un petit mot sur les abonnements qui n'ont pas trop bougé. Le prix?
Non, les abonnements, on était l'année dernière, je crois qu'on l'est toujours ou très proche des abonnements les moins chers de Pro D2. C'est un choix. Hein, on explique aux partenaires qu'on augmente chaque année les loges parce qu'ils seront contents de voir beaucoup de monde en face, donc que ça sera mieux pour leurs invités. Voilà, c'est un souhait, on a un grand stade, on a envie qu'il y ait du monde, on sait qu'il y a des gens passionnés. Après, on a augmenté juste de la partie TVA parce qu'on a une TVA supplémentaire à payer cette année, mais on est sinon au même tarif. Donc voilà, effectivement, on s'est aperçu que quand on allait en déplacement sur les matchs prestige, nous, Biterrois, payons plus cher les places que quand que ce soit à Perpignan, en Narbonne ou ailleurs. Donc voilà, c'est pas une vengeance, mais bon, c'est un juste retour des choses. Donc, et puis après, il faut qu'on réfléchisse à faire entrer des recettes complémentaires.
Bon, eh bien, écoutez, la saison, de toute manière, va démarrer le week-end du 21 août. Réception de Mont-de-Marsan à la Méditerranée. On les avait quittés, vous le disiez tout à l'heure, on les retrouve. On en arrive à la fin de cette émission. Donc, alors récapitulatif, les abonnements en ce moment, ça tourne bien. Comment ça se passe?
Pour l'instant, ça tourne bien. Oui. Bon. Ça tourne bien aussi bien pour les abonnements tribune de face, tribune d'honneur, mm-hmm. et ça tourne bien aussi pour le remplissage des loges. Après, c'est au bout qu'on verra où on en est. Mais bon, les choses se passent bien. L'angoisse entre guillemets des matchs du vendredi semble se lever. Bon voilà, après. Il va falloir, de toute façon, si on veut suivre l'ASB, il va bien falloir aller au match le vendredi parce que le samedi, il n'y aura personne.
C'est ça, malheureusement, pour beaucoup, mais bon.
On espère avoir le moins possible de matchs le jeudi, mais on ne maîtrise pas.
Oui. Donc, vous l'avez entendu, les abonnements tous les jours de la semaine du lundi au vendredi au siège, c'est où? C'est à la boutique?
La boutique au siège où je pense qu'on peut aussi les prendre par Internet. Donc,
oui, voilà. C'est vrai. Donc, nouveauté cette année nouveauté par cette Internet. Année. Effectivement. Donc, il ne vous reste plus qu'à courir au club tout cet été pour vous abonner. Donc, n'oubliez pas s'il vous reste encore quelques questions, interrogations suite à cette émission. Vous pourrez, comme on l'a dit en début d'émission, revenir au Stade de la Méditerranée le 24 juillet pour l'Assemblée Générale Rugbitaire pour poser les questions, soulever les derniers doutes que vous auriez aux dirigeants et au staff sportif présents. Quant à nous, Rémi, des dernières infos, dis-nous.
Oui, par rapport à la radio, donc ça va être la naissance d'une web radio au sein de Radio Ciel Bleu, donc qui va voir le jour prochainement. Donc vous aurez des informations à venir très prochainement sur les divers supports que comporte la radio. Donc vous serez au courant, bien entendu, et les premiers informés écoutés. Donc tendez bien l'oreille pour avoir cette information par rapport à la web radio qui s'appellera RCB Sport.
Eh bien, écoute, on verra ça les prochaines semaines. Messieurs, un dernier mot pour conclure.
Ben merci de nous avoir reçus. On a communiqué, comme ça nous était demandé.
Voilà.
Voilà. Là, j'espère déjà, que les gens sont satisfaits. Bonne saison. On espère que la saison va bien se passer. En tout cas, on fait tout pour. L'objectif, c'est que tout le monde puisse prendre du plaisir. Les supporters, les partenaires, les joueurs, parce que si tout le monde et les dirigeants, si on peut aussi, parce que si tout le monde prend du plaisir, forcément les résultats seront là. Et puis c'est quand même le but qu'on aille au stade pour prendre du plaisir. Voilà.
Président Pierre-Olivier Vallès, merci.
Merci à vous.
Alain Paco, merci d'être venu.
Merci à vous.
Rémi, on te donne rendez-vous en tout début de saison. Merci de nous avoir suivis. Alors, cette émission, vous l'écoutez vendredi, donc à 19h, rediffusion à 21h, à 23h pour les couches tard, et samedi matin à 10h sur Radio Ciel Bleu ou sur les players web sur Internet. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous un peu plus tard en début de saison. Merci de nous être fidèles. À très bientôt sur Radio Ciel Bleu. Et surtout, allez Béziers.
Allez Béziers.